la campagne. Bonjour, pour cette dernière dans l'Indre, je m'empresse de saluer les initiatives de l'association Kaléidoscope, association d'éducation populaire que nous avions présentée en 2015. Première bonne nouvelle, elle existe toujours. Elle poursuit ses actions de partage de projets de rencontres au titre de création artistique originale. Seconde bonne nouvelle, une des initiatives plutôt originales consiste à provoquer un événement intergénérationnel entre 15 lycéens et 15 personnes âgées sous forme de défilé de mode avec des vêtements de friperie. Plusieurs présentations et plusieurs défilés ont eu lieu, dont un qui s'est tenu récemment à Londres. Le résultat est remarquable. Allez voir sur le site de l'association qui se trouve en lien à nos pages d'émission. À une autre échelle, que dire de ma belle école, association fondée par Mouna Moalia à Issoudun, sinon saluer depuis sa création en 2010 le travail réalisé en faveur de la scolarisation des enfants défavorisés dans des pays en voie de développement ou en état de siège. La première pierre à l'édifice est le parrainage de ces enfants. La seconde est de permettre aux enfants de suivre une scolarité avec du matériel approprié, comme les livres qui viennent d'arriver dans une école de Mopti au Mali. Parfois, l'association doit répondre à l'urgence, à commencer par la situation catastrophique vécue par les enfants de Syrie. Une précision, un parrainage coûte en moyenne, pour la scolarité d'un enfant, 25 euros par mois, mais ne revient qu'à 8,25 euros après déduction fiscale. Mabelleécole.org, il y a une page Facebook aussi. Des comédiens handicapés mentaux pour la compagnie L'Envolée Furieuse. C'est le résultat d'un long travail d'accès à la culture orchestré par un foyer de vie au blanc, où il y aura le jeu, tout à l'heure aussi le jeu des 1000 euros. À lire en parallèle l'article dans les pages numériques de La Vie de notre confrère Laurent Jibowski sur cette grande réalisation et des explications dans un court instant avec Marie Thiret. Et puis un lieu de résidence artistique devenu une référence nationale à Vatan. Voici la pratique co-dirigée par Adeline Bourgin qui sera notre seconde invitée.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Marie Thiret, bonjour.
Bonjour.
Marie, on vous présente comme chef de service au foyer de vie, foyer d'hébergement qui s'appelle à Toubrenne, au Blanc.
Oui.
Mais surtout, vous êtes à l'origine d'un projet théâtre que vous avez mené avec des adultes en situation de handicap mental et c'est devenu un phénomène aujourd'hui professionnel qui s'appelle L'Envolée Furieuse. Martine, à travers son courrier, nous a dit... ce qu'ils font est absolument merveilleux, c'est bluffant. Le dernier spectacle, nouveau spectacle, rencontre, est bluffant. Donc explication quand même, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ameniez dans ce foyer de vie ce programme de théâtre ?
Alors moi je suis pas à l'origine du projet, j'ai eu la chance de l'attraper en cours de route. Mmh. Et quand j'ai vu effectivement la richesse de ce qui se passait dans cet atelier de théâtre que le foyer de vie avait développé avec la Barda Compagnie, qui est donc une compagnie professionnelle, j'ai tout de suite su qu'il fallait mettre l'accent sur ce projet et pouvoir leur permettre au maximum d'avancer, de se produire et d'aller à la rencontre d'un public le plus large possible, parce qu'ils font un spectacle extraordinaire, qui interpelle beaucoup, qui permet une vraie rencontre avec les gens, avec les émotions, avec des tas de choses.
Quel type de handicap ont ces personnes ?
Alors, on est sur des personnes déficientes intellectuelles.
Et comment s'élabore un travail théâtral avec ces personnes ?
On peut difficilement partir avec un texte ou avec une idée précise. L'idée, c'est plutôt d'aller chercher ce que sont nos résidents, ce qu'ils ont envie de sortir dans leurs émotions, dans leurs envies, et partir à travers de ça pour développer un spectacle.
Voilà. Mmh. Alors, comment peut-on cadrer les émotions ?
Cadrer les émotions.
Ben oui, ben parce qu'il faut une écriture malgré tout.
Eh bien écoutez, on part d'idées des acteurs, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en place, quelles chansons ils ont envie de chanter, quelles émotions ils ont envie de passer, que ce soit de la colère, de l'amour, du rire, etc. Et à partir de là, les aider à développer une forme qui puisse être montrée. Et essayer de la reproduire. Alors, on la reproduit jamais deux fois de la même façon, puisqu'on a des personnes qui sont extrêmement spontanées, extrêmement imprévisibles. Donc le spectacle est différent toujours, d'une fois sur l'autre.
Et il raconte quoi, le spectacle ? Et en particulier, le dernier rencontre ?
On n'est pas sur une histoire, on n'a pas un fil qu'on déroule. On a vraiment des tableaux qui s'imbriquent les uns aux autres, où les résidents vont envoyer des émotions, vont jouer avec le public, vont jouer entre eux et nous amener un peu n'importe où. C'est assez... Les règles conventionnelles qu'on a l'habitude de voir en théâtre sont vraiment bousculées. On est vraiment sur quelque chose de très différent. C'est un théâtre de laboratoire.
On dit très souvent que ce type d'expérience exceptionnelle, extraordinaire, permet de mettre en valeur la différence, d'en prendre conscience. Mais pour les gens différents, ils prennent conscience de quoi ?
Pour les gens différents, ils sont heureux d'aller à la rencontre de leur public. Ça leur permet vraiment de s'exprimer, d'ouvrir des voies de communication qu'ils n'ont pas toujours. Voilà, tenter l'audace de l'expression. Et puis c'est aussi avoir ce regard positif sur eux, qui n'est pas un regard qu'ils ont l'habitude d'avoir. Et c'est vraiment quelque chose qui leur donne une force, qui leur donne énormément.
On gagne en confiance ?
Ah oui, oui. En capacité d'expression, en capacité à aller vers les autres, il y a vraiment quelque chose qui se joue pour nos résidents au travers de tout ça.
Et qu'est-ce que ce handicap apporte au théâtre ?
Je crois qu'il apporte beaucoup parce que ça bouscule, ça dérange, ça, voilà, toutes les règles conventionnelles sont subverties, les conventions, les codes. Je crois que tout ça, ça vient enrichir le monde culturel aussi avec une nouvelle esthétique, avec quelque chose de différent.
Et quel est l'avenir de la compagnie L'Envolée Furieuse ?
Je crois que ce premier spectacle nous a donné des ailes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir élargir, de toucher le plus grand nombre de spectateurs possible et si possible, des gens qui sont vraiment dans la méconnaissance du handicap, pouvoir le présenter éventuellement en EHPAD, dans des écoles, à des terrasses de café, voilà, voire même de s'exporter dans d'autres départements ou à l'étranger, puisqu'on a un spectacle quasiment, enfin avec très peu de paroles, donc on a très envie de pouvoir aller partager ce beau projet le plus loin possible.
La compagnie est partante pour se professionnaliser, à ce que je vois.
Carrément, on aimerait beaucoup. Après, on a vraiment des partenaires qui croient en nous et c'est bon parce que ça nous permet d'avancer aussi.
Bravo Marie, bravo à toutes les personnes qui vous accompagnent dans cette belle aventure. Si vous voulez un lien avec le foyer de vie Atout Braine du Blanc, c'est très simple, c'est atout-braine.fr. Et faire pour suivre la suite de cette envolée furieuse de le nom de la compagnie. Merci Marie.
Merci.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Voici un petit bijou d'art et de poésie, le cirque Bidon. Ce cirque relève d'une déjà vieille histoire. Bidon, comme François Bidon, créateur de cette chose qui est un cirque à l'ancienne pour le mode de circulation, avec des verdines faites maison et des bons chevaux pour tracter l'ensemble, mais qui ressort aussi du nouveau cirque pour ce qui est des spectacles. Nous sommes en 1974 en Bretagne. François Bidon, formé au contact du cirque Morales puis du cirque Reynaud, conduit près de 180 représentations par an dans les villages de l'Hexagone jusqu'en Italie. En 1980, la compagnie se scinde en trois parties, mais l'aventure continue. En Italie encore, en Sardaigne, en Corse. Au début des années 2000, la troupe grandit avec 15 permanents et installe son siège hivernal dans le Sud-Berry, près de Sainte-Sévère-sur-Indre. En 2015, cette commune de l'Indre voit la naissance du premier festival d'hiver du cirque Bidon, qui se déroule dorénavant chaque année, fin septembre et début octobre. En attendant, le cirque Bidon entame les jours prochains une nouvelle tournée au rythme de ses chevaux et de sa longue caravane de roulottes. C'est magnifique, allez voir les photos, vous verrez. Ça commence le 19 mai dans la cour du château d'Autribe, dans le Puy-de-Dôme, avant de partir à nouveau pour une grande tournée estivale en Italie. Le retour de l'équipe dans l'Indre passera en septembre par Reuilly, puis Montier-Chaume et La Motte-Feuilly. Le cirquebidon.fr, la page Facebook Cirque Bidon. Et vous verrez donc sur ces sites les verdines et l'ambiance qui se dégage des musiques et inventions des bidons du cirque comme on l'aime, avec une belle gueule d'atmosphère. Adeline Bourgin, bonjour.
Bonjour.
Adeline, vous dirigez avec Cécile Loyer la pratique. Alors, j'ai toujours préféré la pratique à la théorie, vous aussi.
En effet.
Et qu'est-ce que c'est la pratique ?
La pratique, c'est un lieu de résidence d'artistes pluridisciplinaires où on accueille des artistes de toutes disciplines pour travailler. On leur laisse de l'espace, du temps et la liberté pour mener à bien leurs projets.
Ouais, vous êtes installé dans un corps de ferme à Vatan, qui est une invitation à partir avant de revenir, parce que paraît-il que c'est la devise, vous m'avez dit, de la commune. Comment s'est constituée cette pratique dans cette maison de famille devenue lieu d'échange artistique ?
Alors Cécile Loyer a ce corps de fable qui est un ancien chai. En fait, historiquement, la pratique existe depuis plus d'un siècle et mener une activité de chais de négoce de vin jusque dans les années 90. Et puis le lieu a été comme ça mis en jachère en attente d'un nouveau projet. Et puis Cécile, fort du constat qu'il manquait des espaces de création où on pouvait librement, en tant qu'artiste, chercher et créer, a eu envie de le mettre en partage comme un outil de travail à d'autres artistes.
Et vous avez commencé au départ avec zéro moyen, dites-vous.
Tout à fait, on est parti de rien. Et puis on a commencé à ouvrir les portes parce qu'on nous a dit au ministère, à la région, qu'il fallait commencer à mener une activité pour commencer à être aidé. Et donc on a un jour comme ça décidé de mener une résidence pluridisciplinaire, ce qui est devenu ensuite le cœur de nos activités, c'est-à-dire des artistes ensemble de pratiques différentes qui travaillent côte à côte dans les espaces qu'on ouvre tous. Et c'est parti de là, en septembre 2011. Et puis ça a fonctionné et puis on a évidemment eu envie de continuer.
Et pourquoi ça marche et pourquoi les artistes viennent en résidence chez vous ?
Parce qu'il y a tout le confort nécessaire à la création, dans le sens où il n'y a pas d'horaire de travail, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler de jour comme de nuit. On offre des hébergements, donc pareil, juste à côté de leur lieu de travail, donc ils sont complètement immergés dans la création, dans leur travail. Le principe, c'est vraiment qu'il y ait une liberté totale en fonction de ce qu'ils ont besoin de travailler. Donc certains ont besoin de travailler de nuit, d'autres, alors évidemment, respectant les nuisances sonores pour les voisins, parce qu'on est en cœur du village, donc on a des voisins, on n'est pas complètement perdu dans la campagne. Et donc ça offre des conditions qu'ils ne retrouvent pas finalement dans des théâtres classiques.
Est-ce que ça a des effets sur la vie locale ?
Oui, parce qu'aujourd'hui, depuis 6 ans maintenant qu'on mène l'activité, on travaille avec l'école qui est en face, la maison de retraite, le collège, avec évidemment les habitants qui viennent de plus en plus nombreux assister aux sorties de résidence, ce qu'on propose. On en propose entre 7 et 10 par an. Et puis un festival biannuel qui aura lieu cette année les 15 et 16, 17 juin prochains, qui est l'occasion de tout ouvrir et que ce soit la fête de la pratique pendant 3 jours.
Vous avez parlé de la région, du ministère de la Culture tout à l'heure, mais je vois qu'il y a quand même une chaîne qui vous a aidé, de la DRAC, de la région, des collectivités territoriales, du Centre chorégraphique national d'Orléans, ça concerne Cécile Loyer puisque sa compagnie de danse a ses attaches à Orléans. Il y a également le Cyclique, décidément tout le monde s'y est mis.
Oui, tout à fait. Nous, le projet, c'était de surtout pas travailler seul et de travailler en coopération avec d'autres partenaires institutionnels. Donc, on a essayé très, très vite, en fait, de tisser des liens sur le territoire. Donc, les premiers à nous avoir soutenus très fort, c'est le Centre chorégraphique national d'Orléans, puisque Cécile Loyer a été danseuse avec Joseph Nadge pendant quelques années. Et donc, il nous a vite suivi à l'époque où il a été directeur du Centre chorégraphique. On a ensuite mené des échanges avec Cyclique, avec Equinox, la scène nationale de Châteauroux, maintenant aussi avec le Centre chorégraphique national de Tours. Voilà, on essaye comme ça de travailler avec d'autres aussi parce qu'on s'estime être en complémentarité de ces lieux de production justement. Donc là, on a eu un artiste dont la sortie de résidence était vendredi en partenariat avec le Centre chorégraphique de Tours par exemple.
Mais ce sont des artistes issus de la région ou qui viennent d'autres régions ?
Non, qui viennent de partout. On n'a pas ni de limite territoriale aux artistes qu'on pouvait accueillir.
Et alors, les enfants de Vatan en profitent aussi ?
Oui, tout à fait. On ouvre les portes à l'école primaire. Donc, les enfants viennent voir un artiste au travail, que ce soit de la danse, de la musique ou du théâtre. Ils viennent assister à ça. Puis après, on organise un petit échange entre les artistes et les enfants.
Ouais. Une invitation à Vatan. Bon, c'est le comble, hein, c'est le défi, mais ça marche. La preuve avec la pratique, le site c'est lapratique.org. Vous pouvez voir le travail aussi de Cécile Loyer qui gère la partie artistique du projet avec Adeline. Cécileloyer.com pour l'adresse. Merci Adeline.
Merci Philippe.
Un petit rendez-vous dans une autre région, Meurthe. Et Moselle, Ville-sur-Iron, contrairement à son nom, c'est un village, 300 habitants. Pour la 20e édition, Ville-sur-Iron accueille le Festival international du film documentaire sur la ruralité qui s'appelle Caméra des Champs. Il aura lieu cette année du 17 au 20 mai. Les deux thèmes retenus, l'agriculture intelligente face au changement climatique et la jeunesse à la campagne. Ville-sur-Iron, Meurthe et Moselle, du 17 au 20 mai, le nouveau festival Caméra des Champs. Merci à Étienne Bertin qui réalisait les émissions cette semaine, assisté de Joël Levert. Merci aux techniciens, techniciennes de France Inter qui œuvraient pendant cette semaine, comme aujourd'hui Victoria Asper.